Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir.
Martino.
Richard Martino.
Politiquement incorrect.
Je comprends à quel point les gens sont préoccupés et même inquiets par rapport à cette situation.
Cube Radio.
Tu dis inquiète ou inquiet? On dirait qu'il dit inquiète comme Pauline Marois. Don't be inquiète.
Préoccupé et même inquiète par rapport à cette situation.
Inquiète. C'est entre les deux. Quel leader quand même. On sent là, qu'on est entre bonnes mains. On sent qu'il est bien en selle, qu'il possède vraiment son dossier, puis que les choses vont se régler. Justin Trudeau, ouf! Un homme à la main de fer. Alors, merci d'écouter Politiquement Incorrect et Cube Radio. Et la question que je pose ce matin, à partir de quand un leader a le droit de dire « assez, c'est assez ». À un moment donné, c'est assez. C'est bien beau, là, on va tergiverser, on va dialoguer, on va discuter, on va s'asseoir, on va avoir une table de concertation, une commission, on va vous entendre, etc. À un moment donné, assez, c'est assez. On vit dans un régime de droit. On a un système de droit avec des tribunaux. À un moment donné, si le droit ne tient plus, si tu ne fais plus respecter les lois de ton pays, c'est foutu. T'es foutu. Regardez les pays qui sont passés à travers des guerres civiles où toute la structure du pays est tombée en morceaux. La première chose qu'on fait lorsqu'on reconstruit le pays, une fois que la guerre civile est terminée, la première chose qu'on fait, un corps de police et des tribunaux. C'est ça, là, les piliers d'un pays, c'est ça. Là. C'est un système de justice, un corps de police, des tribunaux, des lois. Voici ce que tu peux faire, voici ce que tu peux pas faire. Puis à partir de là, tu construis une société. Avez-vous vu Deadwood, la série Deadwood qui se passait dans le temps du Far West aux États-Unis? C'était justement dans un lieu de non-droit. Un lieu où le droit ne s'appliquait pas aux États-Unis, dans une réserve amérindienne où il n'y avait pas de droit. Et là, soudainement, Deadwood racontait comment on construit une société à partir de rien. Et la première chose qu'on fait, on nomme un shérif, puis après ça, dans le saloon, on ouvre un tribunal. C'est ça le début. Quand le droit ne tient plus, tout fout le camp. Fait que là, on laisse entraîner ça, regardez, là, un peu partout hier, face à l'Université McGill. Il y a des gens aussi qui en Ontario qui ont bloqué un pont qui est entre l'Ontario et les États-Unis, le pont des Mille-Îles. Et là, ça commence à popper un peu partout, des gens qui vont bloquer des rues, qui vont bloquer des ponts, etc. À un moment donné, c'est bien beau, on va négocier, on va discuter, mais la loi... c'est la loi. Tu brises la loi, il y a des conséquences. Je veux bien là, que ce sont les Premières Nations, c'est un peuple dans un pays, ils ont des droits ancestraux, etc. Mais là, il y a une vingtaine de communautés autochtones qui veulent que ce projet-là soit sur pied, ait le feu vert, parce qu'ils veulent profiter des retombées économiques, ils veulent s'enrichir eux autres aussi, ils veulent que vivre mieux avec davantage de moyens. C'est normal. À un moment donné, enough is enough. Et là, je sais que ça paraîtrait très mal d'envoyer des policiers, mais à un moment donné, si c'était n'importe qui, parce que là, le message que tu envoies en faisant rien, en ne faisant pas respecter la loi, le message que tu envoies à tous les groupes, c'est si vous voulez vous faire entendre, si vous voulez faire avancer votre cause, bien, faites la même chose. Bloquez des ponts, bloquez des autoroutes, bloquez des rues. Là, c'est le système économique du pays qui est paralysé, là. Il y a des fermiers qui attendent du propane. Tout est bloqué à cause d'une petite gang de quelques dizaines de personnes auxquelles s'ajoutent des anarchistes, des écolos, des militants, des gens qui veulent faire chier le gouvernement, etc. À un moment donné, là, tu traces la ligne dans le sable, là, puis tu dis, on est un État de droit.
Il faut se donner des limites. Je comprends qu'il faut le faire en discutant avec les nations autochtones, mais actuellement... il commence à avoir des pénuries dans plusieurs secteurs, là, surtout donc le transport de marchandises.
Les transports de marchandises, tu sais, c'est pas rien, là, des voies ferrées. Là. C'est au cœur du Canada. Le Canada s'est construit avec des voies ferrées qui ont relié l'Est à l'Ouest. À un moment donné, à partir de quand, tu dis « enough is enough » et pensez-vous vraiment que Justin Trudeau, c'est le genre de leader qui va prendre ces décisions-là? Monsieur consensuel, monsieur « hey, je me mettrais pas les communautés autochtones à dos, voyons donc. »
On va aller leur serrer la main bientôt, je pense. On va leur dire, oui. Merci de faire ça.
À un moment donné, là, Christy, hey, là, les jeunes près de l'université McGill là, qui manifestaient, puis tout ça, Rebel Media, le média là, de droite sur Internet, ils ont envoyé un journaliste qui demandait aux jeunes « Hey, le pipeline que vous contestez, il transporte quoi exactement ce pipeline-là? » Puis là, il disait « De l'essence. » Non, transporte du gaz naturel. Ils ne savent même pas c'est quoi. Tu leur demanderais là, « OK, il y a combien de communautés autochtones qui ont signé le projet puis qui l'ont appuyé? » Ce serait beau. Oh bon, non, nous autres, on est dehors, appuyer les droits. Puis là, ils ont des pancartes contre le régime colonial. Régime colonial.
Avec des fautes.
Avec des fautes.
On imagine.
My God, tu dis, come on, là. On est dans un état de droit. À un moment donné, là, si c'était vous, si c'était moi, si c'était n'importe quel groupe qui bloquait un pont, il n'y aurait aucune hésitation, puis il arriverait. Parce que là, à un moment donné, quand ça traîne, premièrement, ça jette de l'huile sur le feu. Les gens ont une animosité. Rappelez-vous, Oka, on était rendu où les gens garochaient des roches à des jeunes Amérindiens qui sortaient de l'école. C'était complètement laid. C'était épouvantable. Mais là, il y a une petite gang là, qui ont décidé de paralyser le pays. Ça n'a aucun sens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je sais pas. Il va discuter. J'ai bien hâte de voir ça. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Martino. Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours.
Vous écoutez
Politiquement Incorrect.
Alors, on va parler d'économie avec Michel Gérard, chroniqueur à la section argent au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel.
Bonjour Richard.
Écoute, hier, là, on tentait là, de dire que c'est une excellente nouvelle que Alstom ait mis la main sur la division ferroviaire de Bombardier, que c'était fantastique. La Caisse de dépôt va être maintenant actionnaire à 18 % le principal actionnaire d'un géant du transport. Mais est-ce qu'il y a lieu de célébrer? C'est une si bonne nouvelle que ça?
C'est une si bonne nouvelle que ça. Ben, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on savait que Bombardier allait vendre Bombardier Transport pour des raisons financières, pour réduire son endettement.
Ben oui.
Et dans les circonstances, il fallait trouver la meilleure solution. Puis, évidemment, Alstom devenant Bombardier Transport, dans les circonstances, oui, on peut dire que c'est une transaction qui est bienvenue. Maintenant, il faut remettre cette transaction-là dans sa juste perspective. Premièrement, c'est ça que je dis aujourd'hui dans ma chronique, c'est qu'on acquiert. Tu sais, la caisse se vante de devenir le principal actionnaire de Alstom, c'est vrai, à 18 %, mais 18 % tu contrôles rien, là. Ce que je veux dire, c'est que tu
détiens
pas 51 % des actions, là.
Ben non.
Alors, tu sais, tu détiens le gros bloc, mais tu n'interviens pas là, dans la gestion d'Alstom.
Tu peux jaser, mais 18 % c'est pas toi qui décides, là.
Ah non, c'est un fait. Maintenant, et en plus, il faut préciser qu'on acquiert ce bloc-là, mais à gros prix. C'est-à-dire, il n'y a pas d'aubaine, là. Parce que moi, j'ai fait un petit calcul. Tu sais, la caisse, là, c'est l'action de Alstom, là, le 19 novembre 2015, là, quand la caisse a investi $1.5 billion dans Bombardier Transport, l'action d'Alstom valait $29, puis aujourd'hui, la caisse paye euros pour l'action de Alstom. Donc, il n'y a pas d'aubaine. Tu sais, il y a une augmentation de 53 %, puis le placement de la caisse a augmenté de 40 %. On se retrouve avec une prime, si l'on veut, de 13 points de pourcentage. Or, je dis pas que c'est un mauvais deal, mais ce que je veux dire, c'est qu'on devient pas le principal actionnaire d'Ashton. C'est pas un cadeau, là. Or, dans les circonstances, évidemment, c'est sûr que là, on protège les emplois de Bombardier Transport au Québec. Mais tu sais, c'est pas 100 000 emplois, là. On protège à peu près 1 200 emplois, ce qui est bien en soi, soit dit en passant. Ben oui. On assure la pérennité de l'usine de Bombardier à La Pocatière, ce qui est très bien. En plus, aussi, le centre d'ingénierie de Bombardier Transport, ici, tout près, là, à Saint-Bruno. Donc, en soi, c'est bien. Mais ce que je veux dire, il faut toujours relativiser la chose. D'autant que c'est Ashton qui fait un Christie de bon coup, là. On s'entend-tu, là? Ashton, c'est miraculeux ce qu'ils viennent de faire, parce que, tu sais, quand tu investis dans le capital, là, elle débourse pas, là, le 4 milliards que la caisse met dedans, là, c'est la caisse qui, qui transfère sa valeur dans Ashton. Alors, donc, c'est Ashton qui fait un maudit bon coup. Alors, et d'autant, il faut quand, puis là, la caisse, elle, ben, qu'est-ce que tu veux, faut dire que ça fait son affaire. Hein, tu sais, moi, je le rappelle dans ma chronique d'aujourd'hui, que la caisse était actionnaire de Bombardier Transport à hauteur de 32%, puis quand est arrivé le moment clé de donner le contrat pour son REM, qu'on paye avec... Non, mais c'est bon de le rappeler. Il y a des gens qui vont me dire, ouais, ben Girard, tu radotes. Non. On va toujours rappeler. Le REM, hein, ce fameux réseau-là, est construit à même nos impôts et nos épargnes. Et puis, on a eu le culot, l'audace d'octroyer le contrat du train qui va circuler sur le REM à Ashton. Ça peut aller, mais Ashton qui fait fabriquer ses trains en Inde.
En Inde, ça, c'est, Michel, c'est-tu parce qu'on n'avait pas confiance à Bombardier de livrer les trains à temps en respectant les coûts en respectant tous les critères? C'est bizarre parce qu'on investit dans une entreprise, donc ça veut dire que tu as confiance dans cette entreprise-là, mais quand il y a le temps de donner un contrat, tu n'as plus confiance dans l'entreprise. C'est un peu bizarre, quand même.
La décision a été prise sur le fait que Ashton a présenté une offre inférieure en termes de prix. Or, et puis inférieure parce que les trains qu'elle fabrique en Inde, ça coûte nettement moins cher qu'un train que tu fabriques, évidemment, au Québec. Mais tu sais, c'est partout dans le monde, là. Tu t'en vas dans des pays où ça coûte rien faire la fabrication. Mais quand tu calcules, moi, ça a toujours été ça. Moi, je reprochais cet achat-là. La raison, elle est simple. C'est que, évidemment, à sa face même, tu dis, le prix est inférieur. Bon, maintenant, calcule que quand tu fais fabriquer un train au Québec, là, combien ça rapporte en termes de retombées fiscales? Parce que tu fais travailler ton monde.
Ben oui.
T'as su ta pérennité. Ben oui. Puis en plus que ça, là, faut jamais oublier que le fameux train, là, indien qui va circuler sur les rails. Imagine-toi la promotion que l'on fait au train indien d'Ashton, toi, à travers le monde. Non. Mais là, tu fais pas la promotion de Bombardier, tu fais la promotion des trains indiens.
Ben oui, tu sais, le message qu'a envoyé le gouvernement du Québec, c'est ne faites pas confiance à Bombardier.
Ben voilà.
C'est ça le message qu'ils ont envoyé à l'étranger.
Ben oui, c'est le message que la Caisse a envoyé. Là, évidemment, on a changé de président. Le nouveau PDG, Charles Lémont, c'est sûr que c'est pas difficile qu'il soit plus nationaliste que Michael Sabia, quand même. Non, mais tu sais, même si Michael Sabia, quand même, faisait des choses pour le Québec, là, il faut l'admettre, mais ce ne fut pas le cas en ce qui concerne l'achat des trains indiens. Mettons qu'il a raté son coup royalement.
Totalement.
Et puis le Québec a eu de l'air fou. Le gouvernement Couillard était tellement... Le gouvernement Couillard, là, quand c'est arrivé, elle s'est senti obligé de donner un contrat, comprends-tu, à La Pocatière pour pouvoir sauver les meubles. Or, bon, en tout cas, bref, oui, c'est... Regarde, on était acculés au pied du mur, là. Avec Bombardier Transport. Bombardier allait s'en départir. Puis, je pense, dans les circonstances, c'est une relative bonne transaction dans les circonstances, mais soyons clairs, c'est pas une transaction à prix d'aubaine. Là.
Ben
on paye le gros prix pour effectuer cette transaction-là.
Écoute, parlant de la caisse, il y a Guy Laliberté qui pense à la caisse.
Bon, alors Guy Laliberté et le cycle du soleil. Il faut remettre ça dans sa juste perspective. Bon, alors lui est très brillant, Guy Laliberté. quand il a vendu son gros bloc de 90% là, de ce qu'il détenait dans le cycle du soleil, il l'a vendu à très bon prix, à gros prix, là,
ben oui.
1,8 milliard.
Aux Chinois.
Bref. Oui, c'est ça. Puis là, c'est les actionnaires, là, TPG, c'est un fonds américain avec Fosum, un fonds chinois, là, puis la Caisse qui ont acheté, qui s'étaient mis ensemble pour acquérir son gros bloc d'actions. Puis là, Guy Laliberté, ben là, il a décidé de sortir complètement. Alors, il vend son bloc. On connaît pas le prix exact, mais semble-t-il, on l'évalue à 100 millions, alors ce qui serait à peu près la moitié de ce que ça valait quand il avait cédé ses 90% à l'époque, là, en 2015. Là. Or, bon, mais il faut aussi situer, lui, il fait encore une bonne affaire, Guy Laliberté, parce que le Cirque du Soleil connaît des difficultés actuellement, bon, en Chine, puis à Las Vegas. Oui, c'est ça. Or, la caisse qui était déjà 10%, bon, je pense qu'elle s'est sentie le devoir, par esprit nationaliste, d'acquérir le bloc de Guy Laliberté. Fait qu'effectivement, il passe à la caisse.
Donc, lui, c'est ça, il empoche 100 millions de dollars qu'il va investir dans ses futurs projets. On se demande c'est quoi. On te lit, on continue à te lire dans la section argent. Merci beaucoup, Michel Girard.
Salut.
Politiquement incorrect.
À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio.
Salut Richard.
Salut Jean-François.
On revient sur cette poignée de main plutôt chaleureuse de Justin Trudeau avec un ministre iranien. Ça fait encore beaucoup réagir.
Ça fait extrêmement réagir. Rappelez-vous, un avion de passagers, un avion commercial qui était abattu par le régime iranien. Donc, 176 personnes innocentes mortes, dont 57 Canadiens. Et là, bon, vendredi dernier, c'était la réunion là, sur du comité de sécurité à Munich. Justin Trudeau a croisé... On le voit, a croisé le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, M. Mohamed Javad Zarif. Et là, écoute, là, on dirait qu'il rencontrait un chef spirituel. Regardons-le, le gros sourire. Il prend la main de M. Zarif entre ses deux mains. Il penche la tête un peu en signe de respect, là, pour en signe d'estime et tout ça. On dirait qu'on le voit, là, on vient juste de le voir. On dirait qu'il rencontre le Dalai Lama. Et là, les gens sont furieux, les familles des 57 Canadiens qui ont été tués, ils ont dit, voyons donc, c'est quoi cet épanchement de chaleur? Et là, Justin Trudeau dit, écoutez, c'est de la diplomatie, j'ai promis aux familles des morts qu'ils auraient droit à avoir des réponses à leurs questions, on veut mettre la main sur les fameuses boîtes noires, on va leur dire ce qui se passe, donc c'est certain qu'il faut avoir des bonnes relations avec le gouvernement iranien si on veut qu'il collabore à l'enquête. On peut comprendre ça, c'est correct. Tu sais, la diplomatie, effectivement, t'es chef de pays, tu rencontres un ministre, bon, il faut que tu le salues, Jean-François, mais tu sais, est-ce que tu vas jusque-là, tu peux avoir une main, une poignée de main, mais assez froide, de garder... C'est ça, polie, respectueuse, mais pas en donner plus que le client en demande. Garder quand même une petite gêne, tu sais, un poker face, comme on dit, tout ça. Mais là, écoute, c'est juste s'il a pas donné une petite tape dans le dos, puis ça te tente-tu de prendre un petit gin tonic, Mohamed, puis tout ça, là. Un moment donné, là, ça a choqué. Et, écoute, au Canada anglais, on en parle beaucoup, les commentateurs au Canada anglais sont collés littéralement au plafond. Il y a des... Comme je le dis, les familles de ces 57 Canadiens-là qui ont été tués. Bref, des fois, on se demande, Justin Trudeau, lorsqu'on ajoute un après l'autre, là, le voyage en Inde, son ami Laga Khan, ce qui se passe avec les voies ferrées, le retard pour rapatrier les Canadiens qui sont pris sur le Diamond Princess et tout ça... ajoute un truc après l'autre. Il y a des gens qui se demandent, est-ce qu'il a les qualités nécessaires vraiment pour être un leader, Justin Trudeau? Mais bref, c'est une vidéo qui dure 20 secondes, mais 20 secondes vraiment à glacer le sang, je trouve.
Ça fait quelques faux pas, disons, sur la scène internationale.
Quelques faux pas, tout à fait.
Rappelons-nous aussi de ses propos à bâton rompu avec d'autres présidents concernant Donald Trump il y a quelques mois, qui avait beaucoup retenu l'attention. Par ailleurs, il va y avoir de plus en plus de pandémies, Richard. Est-ce qu'on est prêt à faire face à cette menace-là?
C'est une très bonne question, parce que là, même si on vient, là, on l'espère, là, qu'on va contenir cette pandémie là, du coronavirus en Chine, mais là, il y a beaucoup d'experts qui nous disent, écoutez, ça, c'est un avant-goût de ce qui nous attend. Parce que là, il va falloir voir à long terme. Il va en avoir de plus en plus de pandémies, d'épidémies. Depuis les années 70, on a découvert 1500 nouveaux virus, et ce sont des virus qui mutent et qui deviennent de plus en plus résistants aux antibiotiques. Et là, il y a Bill Gates. On sait que Bill Gates a une fondation où il finance la recherche et le développement de vaccins. Et Bill Gates se dit, là, il va falloir là, que l'humanité là, se prenne, s'organise pour lutter sérieusement contre les pandémies. Il faut lutter contre les pandémies, les épidémies, avec autant de sérieux que si on luttait contre une armée étrangère qui veut nous envahir. Ce n'est pas des extraterrestres, mais ce sont des virus. Et là, entre autres, il y a des experts qui disent qu'il va falloir maintenant avoir des règles international, parce que là, tous les pays, Jean-François, sont interconnectés. On est comme une grande chaîne. Et s'il y a un maillon qui est faible, c'est toute la chaîne qui risque de briser. Prenons, par exemple, les lois sur l'hygiène, les lois sur la manutention des aliments. En Occident, ici, en Amérique, on a des lois très sévères. C'est pas le cas dans certains pays. On a vu des pays où il y a eu vraiment des marchés à ciel ouvert, où les viandes sont là depuis longtemps, au soleil, des viandes sauvages et tout ça, puis on dit, il y a des spécialistes qui disent que ce sont de véritables incubateurs à virus. La déforestation aussi, l'Ebola, c'est comme ça, là. L'Ebola en forêt, c'est qu'on a, on a enlevé des arbres et tout ça, puis on était en contact avec ce microbe-là. Là, on dit il devrait avoir des règles internationales, les mêmes règles pour tout le monde d'hygiène, de manutention et tout ça, mais c'est vraiment, il faut prendre ça extrêmement au sérieux. Il va en avoir de plus en plus d'épidémies, et il va falloir se parler, et c'est pas évident, et on dirait, puis actuellement, là, ce sont les entreprises privées, OK, qui développent des vaccins. On le sait, les entreprises privées, les grandes pharmaceutiques, sont en compétition les unes contre les autres. Donc, elles gardent leurs secrets, ne partagent pas leurs secrets. On dit qu'on devrait faciliter une collaboration entre ces différentes entreprises-là. Bref, ce qu'on voit présentement, c'est peut-être un avant-goût de ce qui nous attend.
Oui, il va falloir s'y préparer, c'est le cas de le dire. Merci, Richard.
Merci beaucoup. Merci.
Bonne.
Politiquement incorrect.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
Alors, vendredi dernier, c'était la Saint-Valentin et Martine Delvaux, qui est une féministe qui ne tient pas les hommes en très haute estime. Elle a écrit des livres, elle écrit des textes, elle est régulièrement interviewée à la presse dès que c'est un sujet qui touche les femmes, le féminisme, les relations hommes-femmes. On demande toujours l'opinion de Martine Delvaux, elle est professeure à l'UQAM. Et moi, j'ai un grand problème avec le discours que tient Martine Delvaux sur les hommes. On dirait qu'elle les aime pas. Je sais pas ce qu'elle a vécu avec les hommes dans sa vie. Ça ne me regarde pas. Mais là, donc, elle a publié un texte, « Les hommes sont incapables d'aimer », point d'interrogation. Et elle parlait aux hommes, elle s'adressait aux hommes en disant, est-ce que vous êtes capable de nous écouter 2 minutes? Est-ce que vous êtes capable d'arrêter de parler? Est-ce que vous êtes capable de nous aimer même quand on vieillit, même quand on a des rides, ou vous allez tout le temps vers des femmes plus jeunes? Est-ce que vous êtes capable de comprendre que parfois ça nous tente pas de faire l'amour, etc.? Est-ce que vous pouvez nous respecter? Puis, voyons donc, c'est comme si tous les hommes étaient des salauds qui acceptaient pas que leur femme vieillisse, qui étaient égoïstes, qui parlaient, qui écoutaient pas. Ça n'a aucun sens. On va en parler à Lise Bilodeau, présidente fondatrice de l'Action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec. Bonjour, Lise.
Bonjour.
C'est pas la première fois, Lise, que tu lis un texte de Martine Delvaux.
Non, mais écoutez, c'est l'art de détruire un homme. Hein? Oui. Cette femme-là enseigne, comme tu l'as si bien mentionné. Et quand j'ai lu ce que tu as écrit premièrement et ce qu'elle a écrit, je me disais, bien voilà, c'est une façon, c'est une universitaire, c'est une façon d'enseigner aux jeunes femmes qui vont aux études ce que c'est qu'un homme, comment elles voient les hommes. Et j'ai bien aimé dans ton texte, quand tu signifies bien, il y a des hommes et puis il y a les hommes.
Ben oui.
Alors, elle n'en fait pas la différence. Et tout en t'écoutant, je pensais à elle, puis je me disais, ben c'est pas compliqué, elle a fait l'apologie de sa propre vie. c'est probablement ce qu'elle a rencontré, peut-être un individu qui n'a pas eu pour elle tous les égards qu'elle aurait souhaité. Et à ce moment-là, elle démolit l'ensemble de l'humanité, qui s'appelle l'ensemble des hommes, ça va de soi. C'est d'une tristesse. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est d'éduquer, parce qu'elle est enseignante, elle est un professeur.
Ben oui.
C'est d'enseigner et c'est d'éduquer les jeunes femmes à détruire, à haïr, à démoniser les hommes. Mais c'est d'une tristesse. Viens pas me dire que elle a les épaulettes extraordinaires et fantastiques pour démontrer que c'est encore vivable entre hommes et femmes. On est encore possiblement capable d'être en amour les uns avec les autres. Et c'est ça qui m'attriste parce que c'est pas vrai. Je suis obligée de te dire, c'est pas vrai, Richard. Les hommes, tu vois, elle leur reproche de trop parler. Ça m'a accroché. Pourquoi? Parce que quand je recule dans le temps, qu'est-ce qu'on reprochait aux hommes?
De ne pas parler assez.
De ne pas assez parler, d'être toujours fermé, de ne jamais démontrer leurs sentiments. Mais là, 20 ans plus tard, on leur dit, vous parlez trop, taisez-vous donc, vous ne nous écoutez pas. Mais moi, je suis tombée par terre quand j'ai lu ça. Vous ne nous écoutez pas. Ben, c'était plutôt l'inverse si on recule dans le temps, où les hommes ne disaient pas un mot. Les femmes avaient... Il faut le dire, là, Richard, là, recule un peu, là. Je suis un peu plus vieille que toi. Papa, là, a aimé sa femme, a aimé ma mère.
Mais oui.
C'était ça de l'amour. Écoute, mon père passait des 3 mois dans le bois, et j'y pense souvent, papa, qui m'envoyait à l'école privée, puis que lui était dans le bois, dans des camps, dans des chantiers de bois rond, à trimer dur avec les chevaux, les hommes, etc., etc. Pour moi, elle a oublié de vivre, elle. Moi, pour moi, les hommes...
Puis tu sais, ton père, je suis sûr qu'il s'ennuyait de sa femme puis s'ennuyait de ses enfants. C'est pas vrai qu'il allait là puis il était sur le party puis hé, hé, c'est le fun, tu sais, non.
Non, jamais de la vie. Puis papa avait tout un respect des femmes, un respect de ma mère. Et puis c'était tout le village qui était comme ça. Alors, c'est d'une tristesse de toujours démoniser les hommes parce que je pense même à votre époque à vous et l'époque de mon fils qui est plus jeune que toi un peu, que vous êtes encore capable d'amour. Moi, je le vois aller avec ses enfants, je le vois aller avec sa femme, je vois aller mes voisins. Écoute, poussons plus loin, ma clientèle.
Mais là, regarde, elle écrit, là, êtes-vous capable, hein, elle s'adresse aux hommes, êtes-vous capable d'être sincèrement curieux de nous, de ne pas nous scruter en cherchant les défauts, mais de vous intéresser à ce que disent nos visages? Voyons donc, comme si on était... Êtes-vous capable d'être curieux de nous? C'est comme si on se fout totalement. T'sais, si on disait, là, Lise, si je disais « les féministes sont comme ça, je me ferais tomber dessus avec raison, parce qu'il y a des féministes, il y en a qui sont corrects, il y en a qui sont radicales,
oui,
etc. Bon. Mais elle a pu dire les hommes.
Elle, c'est les hommes, et c'est faux. Dans les misères que je rencontre, quand ils vivent une rupture, moi, je le sais qu'il y a de l'amour. Moi, je sais que ces hommes-là ont aimé énormément. Moi, je sais que ces hommes-là ont été attentifs à leur femme, attentifs encore à leur enfant. Moi, je sais tout ce que ces hommes-là traversent. Puis, écoute, je suis obligée de te dire que souvent, là, ils viennent pas ici pour traiter leur femme de « tu comprends? » Au contraire, ils assument tout. Ils prennent tout. Et comment on s'en sort maintenant? Alors moi, non, je regrette. C'est comme dans notre société, plus ça va, Richard, plus on essaie de démoniser l'homme en soi, le bon gars, le bon Jack, comme dirait mon père à l'époque. C'est à se poser des questions, je te jure. Mais moi, j'ai pas connu ça. Je suis obligée de te dire que si madame y va avec un petit essence personnelle, moi, dans ma vie, oui, j'ai eu quelques ruptures, mais tu sais, je suis encore en contact avec eux. Je n'ai pas connu la haine des hommes. Et j'ai pas connu à mon endroit des gars qui voyaient pas que j'avais de la peine, des gars qui m'ont pas soutenu dans mon parcours de vie. Si on prend mon bon ami Olivier Kessler, ça fait des années nous qu'on se connaît. On est des amis comme frères et sœurs, puis encore plus. Alors tu penses que cet homme-là n'a pas de sentiments? Tu penses que ce gars-là n'a pas vu ce que j'ai traversé ou ce que je traverse? Ben voyons donc. C'est
non, puis écoute, on s'entend-tu qu'au Québec, là, si j'étais une femme, un des endroits qui est le meilleur où vivre, c'est bien au Québec. Les hommes sont... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... On le voit, il y a malheureusement des gars, oui, qui sont violents, des gars, oui, qui tuent leurs femmes, puis oui, il y a des agressions sexuelles, oui, mais reste que quand même la majorité des hommes au Québec ont fait des pas de géant, puis ils sont extrêmement attentifs aux femmes. Je trouve que c'est un discours que on aurait peut-être pu lire dans les années 70, mais tu sais, on est en 2020.
Tu sais...
Peut-on saluer justement le cheminement que les hommes ont fait au Québec?
Fait? Tout à fait. Écoute, quand j'ai fait la 4e édition de la Journée internationale de l'homme, j'avais là des invités, entre autres Yvon Dallaire, qui voyage beaucoup. Et il me disait, il nous annonçait à tous que les hommes québécois en France, en Belgique, puis Dieu seul sait qui a été loin, même en Suisse, les hommes québécois sont reconnus comme d'excellents bonhommes. Alors, je comprends pas qu'elle nous arrive, parce qu'elle arrive d'une université XYZ, que, à quelque part, j'aime bien mon terme, faut diaboliser la race masculine au Québec. C'est pas comme ça que les hommes québécois sont perçus ailleurs. Et comme tu dis, on fait une belle vie, nous, les Québécoises. Pourquoi on le dirait pas? As-tu idée comment est-ce qu'on est libre, Richard? On fait ce qu'on veut. Écoute, plus libre que moi, tu meurs. Alors, je n'en reviens pas. Les femmes sont libres d'acheter. Les femmes sont libres d'avoir une maison. Les femmes sont libres d'étudier. Elles sont libres de voyager. Elles font des métiers extraordinaires et fantastiques et elles en sont reconnues. Je comprends rien. Je comprends rien. C'est d'ajouter, comment dirais-je, tu vas rire de mon exemple, je te dis, c'est comme si on ajoutait une goutte de vinaigre dans un bol de lait pour le rendre sûr.
Oui, c'est ça, mais je trouve ça malheureux parce que, bon, les professeurs, puis c'est le genre de discours qu'elle doit tenir à ses étudiants, à ses étudiantes sur les gars, puis tu sais, moi, j'ai un garçon de 11 ans, puis tu sais, j'essaie de l'élever dans le respect des autres, dans le respect des femmes, etc., puis tu sais, à force de taper comme ça, les hommes vont avoir... T'sais, on dit que les femmes manquent d'estime d'elles-mêmes, mais les gars aussi vont manquer d'estime d'eux-mêmes à force de se faire tout le temps traiter de façon négative.
Ben c'est parce que quand nous, les parents, on arrive en arrière, puis que eux, ils sont dans la société, puis qu'ils entendent se faire parler ainsi, se faire démolir ainsi, veux pas, tu l'as bien dit, ils en prennent pour leur rhume. Et même si on a une bonne éducation, nous, derrière, n'en demeure pas moins qu'on vit en société. Et ce qui se dit, c'est comme de la pluie qui nous tombe sur la tête. Alors, c'est pour ça que je te dis que c'est d'une tristesse, parce que ce qui m'a assommé d'elle, c'est qu'elle enseigne. Elle enseigne quoi? Elle enseigne la haine, elle enseigne la division, elle enseigne l'impossible entre hommes et femmes quand c'est pas vrai. Et on peut se poser une question, parce que j'ai médité sur ton texte, elle vient d'un parent. Elle vient d'une mère et d'un père. Cette femme-là n'est pas descendue du ciel.
Je ne sais pas comment était exactement son père, mais tu sais, il me semble, il y a deux sortes de féminisme. Il y a un féminisme où il dit les hommes sont avec nous, puis vous êtes bienvenus pour marcher à nos côtés, etc. Puis il y a un féminisme qui attise, au contraire, une division entre les gars et les femmes.
Ben, il y a un féminisme vindicatif, il y a un féminisme hargneux, il y a un féminisme, dit les vrais mots, il y a un féminisme méchant, et ça, c'en est un. C'est un féminisme méchant. Le goût, c'est de démolir et de détruire. Moi, je trouve ça triste parce que moi, j'y crois encore à la Saint-Valentin. Moi, dans ma famille, tout le monde fête la Saint-Valentin et tout le monde est heureux de le faire. Et moi, je crois encore que les hommes sont encore capables de fonctionner avec les femmes et d'être heureux et de nous rendre heureuses. Vous savez, on pourrait parler longtemps, Richard, de la psychologie. Il faut connaître aussi la psychologie masculine. Il faut arrêter de taper sur les gars, d'aller voir comment ils vivent et comment c'est fait, ces hommes-là. Alors, quand on a connu comment ils sont, nécessairement, on est capable de fonctionner avec eux. C'est ça l'histoire. Souvent, ce sont des femmes, même si elle est professeure, je vais te le dire, souvent, ce sont des femmes qui sont dans les attentes, mais des attentes absolument incroyables. Alors, on attend tout de l'autre. Mais je regrette, mais on est déçus aussi. Alors, quand on n'attend rien de l'autre, mais tout est là, finalement, et puis on est capable d'être en relation avec un homme et une femme, preuve est de constater, même si l'association rencontre des gens en difficulté, moi, je crois encore que les hommes sont capables d'amour.
Et toi, t'en rencontres beaucoup, là, avec l'action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec, t'en rencontres beaucoup des gars qui sont en désarroi, qui sont en détresse après une séparation, après un divorce, puis qui n'ont pas choisi, là, tu sais, qui sont en peine d'amour aussi, eux autres aussi, ça arrive, des gars en peine d'amour.
Absolument, tout à fait. Puis, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? La majorité de mes cas, moi, depuis 20 ans, je devrais dire que dans presque un gros 88%, si je touche pas le 90%, se refont un couple, se remettre en relation. Alors, s'ils étaient si épouvantables que ça, tu penses qu'ils arriveraient à se replacer, à se refaire une famille, à refonder une famille? Non, justement, non. Mais non, c'est pas ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on pourrait se poser la question? Je pense que Mme Delvaux est complètement hors route et elle est complètement dans sa réalité à elle et non pas dans une réalité qui touche tous les humains ou tous les hommes et les femmes du Québec.
C'est ça, il faut pas prendre sa situation personnelle puis essayer de l'appliquer à tout le monde en disant ce que j'ai vécu moi, c'est la règle générale. Il faut s'extirper un peu de sa propre vie là. On a tous vécu des drames, des difficultés, etc. Il y a peut-être des gars effectivement qui ont été maltraités par leur blonde, mais tu sais, il faut pas se dire ah, toutes les femmes sont comme ça. Sinon on n'en finit pas là.
Non seulement on n'en finit pas, mais on crée un cercle vicieux, puis qu'est-ce qu'on fait? On se fait une vie d'enfer. Entendre puis lire des choses comme ça, là, Richard, en tout cas, moi, ça me rend âpre, ça me rend amer, ça me rend triste. Moi, je suis pas ce genre de personne-là. Je suis une personne extrêmement optimiste. Alors, moi, je trouve que... Et puis, je pense toujours à ma jeunesse, hein, parce que moi aussi, j'avance dans le temps. Mais je me dis, qu'est-ce que c'est d'une tristesse que de mettre des gouttes, comme je t'ai dit, de vinaigre dans le lait comme ça pour faire sourire le lait, pour montrer aux jeunes que, bah, les gars, c'est ci, puis les gars, c'est ça. C'est pas vrai, ça. C'est vraiment pas vrai. Et il faut des gens comme vous pour en parler puis de le dire. La majorité des hommes, Richard, ils sont corrects, comme la majorité des femmes. Mais qu'est-ce que tu veux, la société étant ce qu'elle est? Oui, il y a des hommes et puis oui, il y a des femmes qui sont pas corrects, qui sont violents, qui peuvent poser des gestes absolument indécents à tout point de vue. On condamne ça, vous condamnez ça, vous autres aussi, moi de même. Mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est on est encore capable de s'aimer.
Heureusement, je suis optimiste parce que je suis convaincu que la majorité des femmes qui nous écoutent pensent comme toi, Lise Bilodeau. Puis merci de faire ce que tu fais avec l'action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec. Merci beaucoup, Lise.
Merci infiniment, Richard. Au revoir.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
Alors, nous allons discuter avec Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Steve, tu veux nous parler de la gêne de Stephen Guilbeault?
Oui, ben c'est ça, c'est que... On se souvient, c'est la semaine dernière, je crois que c'est vendredi dernier, donc Stephen Guilbeault est à Gatineau. Il s'occupe de ses tâches de ministre du patrimoine, donc il distribue des petits drapeaux du Canada et ça fait partie de ses fonctions. Il est questionné par rapport aux dossiers environnementaux tout le temps, c'est normal parce que c'est après tout pour ça qu'il s'est lancé en politique et puis il faut quand même le dire, là, il a servi et il a très bien servi au Parti libéral du Canada comme caution verte, caution morale. Donc, c'est sûr qu'on le questionne. Et là, le dossier du jour, c'était Tech Frontier, donc le nouveau gros projet qui est dans le pipeline des grandes compagnies de pétrole du Canada. Et puis, donc, on lui dit, OK, ça barre du salaire au Conseil des ministres. Et puis, lui, ce qu'il répond à la journaliste de TVA Nouvelles à ce moment-là, c'est je peux pas vous en publiquement, je peux pas vous en parler, mais ce qui ne m'empêche pas privément, donc de façon privée, d'en parler au Conseil des ministres et tout ça. Puis ça faisait suite aussi, je dois le dire, à un article qui a été très, très partagé, un excellent article d'ailleurs, bien fouillé, du Toronto Star, qui parlait, qui donnait la voix aux membres du Parti libéral, aux députés du Parti libéral, qui justement font partie de ceux qui sont contre ce projet-là, et qui disent, si on veut être logique, si on veut être cohérent par rapport à nos engagements environnementaux, il faut dire non à ce projet-là, il faut dire non une fois pour toutes. À un moment donné, il va falloir qu'on refuse un de ces projets-là, on n'a pas le choix. Le problème là-dedans, Richard, c'est que Justin Trudeau se trouve dans ce qu'on appelle un catch-22, hein? Damn if you do, damn if you don't. Donc, si peu importe la décision qu'il va prendre, Justin Trudeau va se trouver avec une crise sur les bras. S'il dit non, il va relire la lettre que Jason Kenney, le premier ministre de l'Alberta, lui a envoyée la semaine dernière, et dans laquelle il fait un avertissement équivoque au premier ministre du Canada. Il lui dit, si vous refusez ce projet-là, ben premièrement, vous allez nuire à l'économie et vous allez nuire grandement à l'unité nationale. Donc, on sait, hein, là-bas, les gens, l'aliénation de l'Ouest. Et si s'il dit oui, ben voilà, hop, la crédibilité environnementale de son gouvernement. Et en même temps, donc, j'imagine à peine comment Stephen Guilbeault pourrait continuer à se faire questionner encore et toujours comment tu fais pour rester là. Et c'est pour ça que je disais quand j'ai envoyé notre petit teaser pour notre chronique aujourd'hui, il y a une chose, Stephen Guilbeault ne fera pas un Nicolas Hulot de lui-même, il ne démissionnera pas. Moi, je suis certain qu'il
ferait c'est ça. Écoute, parce que moi, je pense, mettons, à Marc Bellemare, OK? Mm-hmm. Marc Bellemare, il voulait refaire le système, voyons, d'assurance automobile.
Oui, No Fault et tout ça.
Le No Fault, il voulait revoir ça. Mm-hmm. Jean Charest, Marc Bellemare était très populaire dans la région de Québec. Jean Charest, il dit, embarque avec moi, puis je te le jure, Marc, je te le jure, on va s'attaquer au No Fault. Marc Bellemare, il dit, OK, il devient ministre de la Justice, il voit que finalement, ça ne l'intéresse pas, Jean Charest, de s'attaquer au No Fault. Lui, il a fait le saut en politique pour ça. Il a dit bye-bye, bonjour. Il a claqué la porte, il est parti.
Oui.
Parce que, bon, par le principe, Nicolas Hulot en France, un vert, un gars très militant environnemental, il a embarqué avec Macron, puis il a dit c'est correct. Mais là, il s'est rendu compte qu'il servait de caution environnementale. Macron, il sortait tout le temps la marionnette de Nicolas Hulot pour dire qu'il était écolo. L'autre, à un moment donné, il a levé les feutres, puis il est parti. Est-ce que, parce que là, Stephen Guilbeault, il joue. Finalement, il joue son avenir, il joue sa réputation, il joue là, c'est ce qui va rester de lui plus tard, là. Son image. Est-ce que tu penses qu'il va avoir le courage de dire, ben moi, je suis un militant écolo, puis je sac le camp?
Non, parce qu'il a déjà la semaine dernière envoyé un signal par rapport à cette question-là, très précisément. Et il faut le dire là, Stephen Guilbeault, il a envoyé des signaux dès qu'il a été élu. Permets-moi un petit aparté. Il a appris, comme on le fait souvent là, lors des soirées électorales, il y avait une journaliste à côté de lui. On lui apprend donc en direct que voilà, c'est fait, vous avez gagné Laurier-Sainte-Marie, vous êtes député. Il a même pas été sollicité que tout de suite il a dit il a pris les devants pour. C'est comme s'il voulait établir là, qu'il y avait un deal par rapport au pipeline Trans Mountain, l'expansion de ce pipeline-là. Tout de suite, il a dit bon ben ce pipeline-là, il est déjà approuvé. Il faut regarder au-delà de ça. On lui a rappelé ça la semaine dernière. On l'a questionné par rapport à ça, par rapport à ce qui s'en vient, Tech Frontier et tout ça. Puis lui, il a dit, peu importe ce qui arrive, moi, I'm here for the long run. Moi, je suis ici le long cours.
C'est ça, il a dit, je suis pas au Parti libéral, au gouvernement pour quelques mois. Je suis là pour des années. Je suis là. Donc, ça veut dire que je vais mettre de l'eau dans mon vin puis je vais prendre mon trou.
Oui, mais le problème avec ça, ou en tout cas, moi, le défi que je vois là par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, il va se le faire rappeler par des gens de son propre comté. Puis là, je vais te conter une histoire. J'ai eu une longue discussion récemment avec un de mes bons amis qui habite Laurier-Sainte-Marie, quelqu'un qui s'est bouché le nez, un indépendantiste qui a voté pour le Parti libéral. Moi, je lui ai dit, écoute, c'est hallucinant que t'aies jusque là, mais non, il fallait envoyer Stephen Guilbeault. Il faut jouer ce risque-là. Il faut que ce gars-là soit au gouvernement. Ça prend des gars comme lui à l'entour de la table. Parfait. Mais là, c'est drôle, hein? Mais cette personne-là attend de voir la décision du gouvernement libéral par rapport. Puis c'est quelqu'un aussi qui est très proche du parti de la mairesse Plante. Lui, là, il est de ceux qui se disent, bon, ben là, c'en est assez. Si jamais le Parti libéral du Canada va de l'avant, puis va jusque-là, ben c'est dans son cas, ce serait c'est terminé. Mais tu sais, on le savait déjà, ça. Moi, je comprends pas les gens qui ont voulu jouer ce risque-là, parce qu'on le savait déjà. On savait déjà que le gouvernement de Justin Trudeau, ben il serait toujours forcé, en quelque sorte, à s'allier avec les gens des pétrolières, parce que c'est comme ça que se construit une large part de l'économie du Canada, puis en même temps aussi maintenant, on lie l'exploitation du pétrole à l'unité nationale, donc on attache là, carrément les mains, les pieds du premier ministre, parce que lui, avant tout, là, sa job numéro un, c'est de garder cette fédération-là ensemble, et il y a vraiment des gens dans l'Ouest là, qui n'en peuvent plus. Puis ce qu'on fait miroiter aux gens là-bas avec Tech Frontier, là, c'est des milliards et des milliards de dollars, mais c'est des jobs aussi. Il y a des gens là-bas qui se disent, écoute, notre économie tourne au ralenti, les gens continuent à s'acheter des VUS à côté, puis pendant ce temps-là, on nous dit à nous, ben non, il faut arrêter c'est nous qui va falloir qui s'occupons de l'entièreté presque de la transition énergétique. Ils veulent pas.
Mais est-ce que ce, toi, t'es un gars de bois, t'es un gars qui a l'environnement à cœur, oui. T'aimes la nature. Est-ce que tu penses, tu sais, est-ce qu'il y a une troisième voie entre on bloque tous les projets énergétiques, puis on y va de façon anarchique, puis on pollue, puis on s'en sac. Y a-t-il une façon d'exploiter nos ressources naturelles qui soit responsable, intelligente, respectueuse des Premières Nations, respectueuse de l'environnement? Est-ce que tu penses qu'il y a une troisième voie possible?
Ben, en tout cas, il y a une chose qu'il faut dire par rapport à ce projet-là, c'est que même dans la très frêle approbation des autorités par rapport à ce projet-là, parce qu'il a été autorisé, on a dit que ça affecterait durablement et que ça rendrait impossible l'atteinte des objectifs environnementaux du Canada et que ça affecterait durablement l'environnement. Puis là, à un moment donné, là, il faut bien comprendre, l'Office national de l'énergie, là, c'est rien d'autre qu'une boîte pour faire la promotion des projets de l'industrie pétrolière. Là, on en refuse jamais. Mais là, c'est le temps d'arrêter ça complètement. Puis c'est le temps d'engager le Canada sur la voie de la fin des énergies fossiles. Et faisons-le, parce qu'il faudra le faire, faisons-le en aidant en premier et d'abord et avant tout les gens de cette industrie-là. Et il y aurait comme une transition à faire. Et pourquoi ne pas justement donc se servir des gens qui sont qualifiés pour les relancer dans d'autres...
C'est ça, d'arriver avec un plan de match, hein, et on va avoir une transition, ça va s'étaler, je ne sais pas, mettons sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, puis voici les étapes qu'on va faire, tu sais, arriver avec quelque chose, mais il n'y a pas ça, là, Trudeau n'arrive pas avec un plan de match.
Non, il peut pas. Puis la raison pour laquelle Justin Trudeau, d'après moi, là, il se trouve, j'imagine que Justin Trudeau lui-même, dans comme on dit, dans son Ford intérieur, il doit vouloir vraiment dire non à ce projet-là. Mais lui, il est dans une autre dynamique. Il est dans la même dynamique que les gouvernements avec lesquels on doit composer tout le temps. C'est que lui, il est dans un gouvernement minoritaire. Lui, il regarde, il y a un échéancier électoral qui lui plane au-dessus de la tête. Et lui, ce qu'il pense en ce moment, c'est qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer. Est-ce que je peux... Là, il a réussi à avoir un petit gouvernement minoritaire sans l'Alberta, sans la Saskatchewan. Il est pogné avec l'histoire de laïcité au Québec, puis il sera pas capable, d'après moi, d'aller chercher ben plus de gains que ce qu'il a fait là. Fait que lui, là, il se trouve, il dit, où est-ce que je vais aller les chercher, mes 169 sièges? Je vais aller les chercher où? Puis c'est plate à dire, mais c'est des gouvernements à courte vue. Peut-être que s'il avait pour une fois le courage de dire, savez-vous quoi? Voici, we take a stand, nous on y va, on dit ça sera comme ça, on va dire non, puis on verra. Ben, c'est drôle, hein, mais peut-être qu'il irait chercher ses 169 voix de cette façon-là.
Puis j'aime bien ce que tu dis, on va prendre le virage de la transition, parce que, tu sais, il faut pas être fou, là. Il faut le prendre, ce virage-là, mais on vous laissera pas tomber, les gens de l'industrie, là. On tirera pas le tapis sous vos pieds, on va vous aider à vous replacer, à vous, tu sais. Il y a une façon de le dire, ce discours-là.
Ben, j'ai connu, moi, des gens de, tu sais, je veux dire, que ce soit dans les maritimes, je veux dire, en Gaspésie, ici, dans notre coin, tu sais, des gens là qui font du fly-in, fly-out, qui vont travailler dans l'Ouest, qui revenaient dans l'Outaouais, qui revenaient en Gaspésie, j'en ai connu plusieurs. Tu sais, il y a des gens qui travaillent dans l'industrie des sables bitumineux, puis j'en connais quelques-uns, moi, qui ont été redirigés vers un des plus gros chantiers qui a cours en ce moment, qui est celui, je pense que le nom, c'est Mackenzie. C'est un port qu'on est en train de construire au Manitoba pour le passage du Nord. Tu sais, puis en même temps aussi, il y a beaucoup de gens qui se sont réacheminer dans d'autres industries, un soudeur qui était qualifié puis qui allait travailler dans l'Ouest, peut-être qu'il faisait un salaire un petit peu moins grand à aller travailler dans l'industrie de l'éolienne à Matane où on cherche des soudeurs à côté, mais il y a une autre affaire, par exemple, c'est qu'il était plus proche de sa famille, puis il y en a beaucoup qui sont allés travailler là, puis des soudeurs, on en demande partout au Québec. C'est un corps de métier qui est très en demande, et à un moment donné, il faudra justement peut-être qu'on tire profit, qu'on tire parti des compétences que les gens ont acquises là-bas pour se servir de ça et engager la transition énergétique à partir des compétences de ces gens-là. Je suis certain que qu'on est capable de le faire. Mais il faut dire non à un moment donné à un de ces projets-là, Richard. Puis ça, Tech Frontier, là, pour moi, c'est là que il y a beaucoup de gens que je connais, même des environnementalistes, qui ont mis qui ont tracé une espèce de ligne dans le sable, puis ont dit, oui, c'est vrai, certains ont appelé à voter pour Justin Trudeau. Puis moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu, là, j'ai reçu la dernière pétition du PAC, là, des gens du PAC, puis ils disent, faut dire non à Tech Frontier et tout ça. Mais je me dis, tabarnouche, vous avez tout fait pour défaire un environnementaliste dans Laurier-Sainte-Marie. Vous avez placé votre pion là-bas, puis ça change absolument rien. Mais pendant ce temps-là, ben, les gens de Laurier-Sainte-Marie se retrouvent, non seulement ils n'ont pas un ministre de l'Environnement, ils ont celui qui est forcé de faire la propagande d'un Canada État pétrolier. Je veux dire, c'est le monde à l'envers.
Ben oui, c'est c'est absurde. Et d'ailleurs, je conseille aux gens, j'invite les gens de lire ton blog fort intéressant qui s'intitule La gêne, et je veux lire la fin de ton texte parce que...
Permets-moi de terminer là-dessus, Richard. Qu'est-ce qu'il avait dit à France Inter? On se souvient de Nicolas Hulot. Qu'est-ce qu'il avait dit comme première phrase pour annoncer sa démission? Il avait dit « Je n'en peux plus de mentir ».
Ah, exactement. Exactement. Bonne phrase. Et à la fin de ton blog, « Le Canada est aujourd'hui plus que jamais un manifeste de dysfonctionnement politique. Le dossier Tech Frontier en est un parfait exemple. Peu importe la décision que prendra le gouvernement, il y aura des crises et des mécontents parce que, justement, ce pays-là est vraiment... déchiré entre d'un côté le développement pétrolier et de l'autre la protection de l'environnement. Puis on dirait que Justin Trudeau va fendre en deux sur le sens de la longueur. Merci beaucoup, Steve. Dans son Ford intérieur, c'est bon, ça. Steve Fortin, tout le temps le fun de lui parler.
L'art est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
Si on en croit le témoignage de la présumée victime d'Éric Salvaille, il y avait la bisoune en feu, littéralement. Là, il faut tout le temps mettre des raies, hein? C'est toujours au conditionnel, parce que là, on discute de ça devant les tribunaux, donc c'est une présumée victime. Mais si c'est vrai... Puis, bon, vous vous souvenez, le texte qui avait été publié dans la presse, il y avait plusieurs témoignages. C'est vraiment weird comme agissement. Tu sais, te montrer en petite culotte, puis dire j'en ai une grosse, puis tout le temps te frotter contre un gars, puis je vais finir par t'avoir, puis écœurer le monde, puis tout ça. Là, ça n'a plus rien à voir avec la sexualité. C'est un power trip. Tu sais, quelqu'un, puis ça arrive, des gars, Weinstein, c'était ça. Ton trip, c'est pas vraiment le cul. C'est pas vraiment avoir un orgasme et tout ça, parce que ces gars-là pourraient se payer des prostituées, des escortes, ou alors pourraient avoir un chum, une blonde, puis tout ça, pour avoir, tu sais, aller sur Tinder, etc. Là. Je dis non, le trip, c'est le power. C'est moi, j'étais en position de pouvoir, puis pourtant, c'est bizarre, parce qu'il n'était pas vraiment en position de pouvoir à l'époque. Là. C'était pas, quand ça s'est déroulé, c'était pas le Éric Salvaille qu'on connaît, là, la grosse vedette et tout ça. Mais c'est d'avoir tu tripes de voir que la personne est mal à l'aise, que la personne se sent pas bien, puis tout ça. Puis là, ça te donne un buzz. C'est les gens qui buzzent sur le pouvoir plus que sur le cul. Et imaginez, là, des gens comme ça, à l'époque, ils n'étaient pas connus, Salvaire, puis ils étaient de même. Imaginez quand tu es connu. C'est ce qui est arrivé avec Weinstein, c'est ce qui est arrivé avec plein de gens comme ça. Tu es connu, tu as du pouvoir. Et là, les gens le savent. Weinstein, les gens le savaient. Sa secrétaire, elle le savait. Là. Elle voyait les petites vedettes rentrer dans le bureau de Weinstein. Elle savait ce qui se passait. Elle se disait, tiens, une autre qui va sortir en pleurs, puis qui va sortir le visage tout rouge, puis qui va claquer à la porte, puis tout ça. Puis les gens dans le bureau le savaient. Puis tout le monde ferme sa gueule. Pourquoi? Parce que tout le monde dépend de cette personne-là. Cette personne-là a un pouvoir sur toi, un pouvoir sur ta job, et tout le monde dit, bien, m'a fermé ma gueule, m'a regardé ailleurs, m'a fermé les yeux, parce que ma job dépend de ça. Donc, c'est des gens, à un moment donné, qui emmènent large. Et emmènent large, pourquoi? Bien, ils se disent, j'ai le droit de faire ça, parce que tout le monde autour de moi sait que je fais ça, puis ils disent rien. Ça doit être que c'est correct, qui ne dit mot consent. Fait que ces gens-là, ils consentent. Finalement, est-ce que j'agisse de même? Il n'y a pas de problème. Personne ne me dit que j'ai un problème. Fait que là, tu continues. Parce que c'est un power trip. Puis c'est vraiment très, très, très étrange, là, cette façon de fonctionner. Bref, on verra là, si ça s'avère ou pas. Et la grosse question, c'est que, mettons, il est trouvé non coupable pour toutes sortes de raisons. Est-ce qu'il va avoir droit à une deuxième chance? D'après moi, non. Ça m'étonnerait qu'il puisse revenir, quoique bon, ça s'est déjà vu. Hein, des gens qui avaient des mauvaises conduites sexuelles qui ont réussi à revenir, mais il faut que tu passes par la traversée du désert, puis montrer que tu es vraiment contrit, puis tu as des remords et des regrets, et tu pleures et tout ça. Peut-être. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a des fans d'Éric Salvaire qui disent « Ah, oh, je le crois pas, ça, je le crois pas. » C'est un bon garçon, Éric. Moi, je trippe dessus, puis tout ça, là. Je le crois pas pantoute, moi, là. Il devrait avoir un show demain matin. En tout cas, bref. Mais ce sont des agissements très particuliers. Et les gens qui sont autour, on les blâme pas, là. C'est certain que ces gens-là ont peur à leur job, etc. Mais quand même, si tu parles pas, tu sais que ça se passe, puis tu ris. Oh, Eric, hein, il est-tu drôle, hein? Il se montre tout le temps la bisoune. Hein? Il est le même, qu'est-ce que tu veux? Il est assez spécial, hein? Puis ça, là, à un moment donné, ben, tu participes parce que ça continue, ça se perpétue malheureusement. Donc, c'est un témoignage quand même assez choquant. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
Justin Trudeau a-t-il ce qu'il faut pour diriger un pays? C'est la question que de plus en plus de gens se posent. Nous allons en parler avec Carl Vallée, ancien attaché de presse du premier ministre Stephen Harper. Salut Carl.
Salut Richard.
Écoute, la poignée de main là, avec le ministre des Affaires étrangères iranien, t'en penses quoi?
Écoute, on a notre premier ministre des licornes, des arcs-en-ciel, champion de la tolérance et de l'ouverture, qui vient légitimer un dirigeant d'un régime fondamentaliste islamique. Moi, je trouve ça renversant. Je suis renversé également de voir la tête du premier ministre du Canada se pencher pour s'incliner devant ce dirigeant avec une bonne poignée de main chaleureuse. Il faut savoir aussi, Richard, que les médias canadiens n'étaient pas invités pour ce photo-op, mais les médias iraniens, eux, étaient là avec toute l'équipe de com du régime islamique iranien parce que c'est un coup de relations publiques extraordinaire pour eux. Ils ont un des alliés principaux des États-Unis, pays du G7, qui vient rencontrer le régime, qui vient serrer la main au régime iranien pour légitimer l'opération.
Et c'est ça, mais tu fais bien de le souligner parce que cette vidéo-là a été coulée, a été postée sur le web par le régime iranien qui était tout content, là.
Ben, certains qui sont contents, Richard, parce que ça vient légitimer leur régime. Ils sont en guerre ouverte avec Trump actuellement. Donc pour eux, c'est un coup de pub extraordinaire, sachant qu'il n'y a même pas un mois, il y a 57 Canadiens qui ont été tués, assassinés par un missile iranien. Donc, moi, je me mets dans la peau des familles de ces victimes-là, la frustration qu'elles doivent ressentir actuellement. Il y a probablement même pas de mots pour ça. Puis le fait qu'il se soit justement comme caché pour avoir cette rencontre-là, je trouve que c'est un manque de jugement monumental.
Ben oui, est-ce que le régime iranien peut dire, par exemple, on n'a pas donné l'ordre de tirer un missile, c'était une initiative d'un soldat qui le fait, c'est une erreur, etc. C'est ça qu'ils vont essayer de spinner, là.
Probablement, mais justement, comme tu dis, c'est un spin. Ça demeure un régime avec lequel on a très, très peu d'affinité au niveau des valeurs. Donc, je ne comprends pas pourquoi, quel était l'objectif de cette rencontre-là. Ou si tu es pour tenir ce genre de rencontre-là, sois franc et direct. Moi, je prends l'exemple de M. Harper qui a été forcé de serrer la main au président Poutine en 2014 parce que c'était dans un forum international, je pense que c'était au G20, puis il lui a dit « Sortez de l'Ukraine, M. Poutine, dans les yeux ». Donc, si on est pour forcer une interaction, au moins, est-ce qu'on peut dire les vraies affaires? Mais non, à la place, on a notre premier ministre qui s'incline.
Saint-Lin, mais t'es tellement exactement qui s'incline là, comme s'il rencontrait un chef spirituel, quelqu'un là, tu sais. Mais tu sais, c'est certain que dans des situations comme ça, la diplomatie fait que tu peux pas refuser une poignée de main là. Tu peux pas parce que ça devient un incident diplomatique. Mais il y a une différence entre serrer la main froidement, en te regardant faire un poker face, puis faire des salamalecs comme il a fait là.
Exact. Mais moi, je trouve, Richard, que ça vient un peu. Ça l'incarne très bien la philosophie des libéraux de relativisme culturel, c'est-à-dire que toutes les opinions sont valables en autant qu'elles viennent de d'autres pays. Donc, tout passe, tout est relatif, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, on trace aucune ligne dans le sable, on serre la main à tout le monde, pas plus tard que la semaine passée, Trudeau était avec le président du Sénégal pour solliciter son appui pour avoir le siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le président du Sénégal a dit ouvertement que lui, l'homosexualité, il croyait pas à ça.
Ben oui.
Puis que la société du sénégalaise n'acceptait pas l'homosexualité, alors que ça vient contrecarrer carrément toutes les valeurs canadiennes dans tout le paysage politique canadien. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce siège-là vaut autant qu'on doit mettre de côté toutes nos valeurs fondamentales dans lesquelles on croit.
Écoute, on jase, là. Toi, tu étais attaché de presse du premier ministre Stephen Harper, mais là, concernant, là, mettons, le blocus là, des voies ferrées, je disais tantôt qu'on vit dans un état de droit, puis si tu n'es pas capable de faire respecter la loi, ben c'est le foutu bordel au pays. Tu conseillerais quoi, toi, au gouvernement, d'envoyer la police?
Ben, écoute, moi, je pense qu'une erreur qui a été commise, c'est qu'ils ont dit d'emblée qu'ils n'interviendraient pas physiquement, qu'ils allaient faire ça avec le dialogue. Je pense que le dialogue a sa place, évidemment. Je pense qu'il faut pouvoir se parler. On doit garder l'argument massue, le marteau en arrière pour dire si on doit intervenir, on va intervenir parce qu'on doit conserver ce rapport de force-là. Nous vivons dans un état de droit. On n'a pas le luxe de choisir les lois qu'on respecte et ce qu'on ne respecte pas. Parce que moi, je pourrais me lever demain matin et dire « Ben moi, ça ne me tente plus de payer mes taxes parce que je veux manifester contre les subventions à tel organisme. » Mais je décide unilatéralement que les lois du Québec, ça ne m'intéresse plus puis que je m'inscris en faux de ça. Ben écoutez, si on vivait comme ça, toute la société s'étouffrait, puis on ne vivrait plus dans un état de droit. Donc, c'est important de garder ce rapport de force-là. Et donc, moi, je pense qu'il faut garder cette possibilité-là. Puis j'ai bien l'impression que les libéraux se sont enlevés de la partie.
C'est ça, parce que dès le départ, comme tu as dit, dès le départ, ils ont dit on n'utilisera pas la force. Fait que là, tu ouvres la porte à des abus.
Exact. Puis pendant ce temps-là, il y a des gens qui perdent leur job. Il y a l'économie qui en souffre. Il y a des organismes qui ne reçoivent plus le propane dont ils ont besoin pour se chauffer. Donc, je pense que c'est très, très grave. Ce sont des infrastructures critiques. Et moi, ce que je me demande aussi, c'est que quand ces manifestants-là vont comprendre qu'il n'y a aucune conséquence à bloquer les voies ferrées, alors pourquoi pas bloquer aussi les aéroports? Pourquoi pas bloquer des autoroutes? Pourquoi pas bloquer? Puis là, ça s'arrête tout ensuite.
Et
à quel moment est-ce qu'on dit ça suffit? Puis on les retire physiquement et on dit on va vous parler, mais c'est pas vrai que vous allez faire souffrir des millions de Canadiens, faire perdre des milliers d'emplois. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre notre pied à terre à un moment donné.
Parce que bon, il y a peut-être des gens qui sont contre ce projet pétrolier-là, mais il y a des façons de te faire entendre. Tu peux aller devant le tribunal, tu peux aller devant l'équivalent du pape, tu peux, tu sais. Il y a des gens ici au Québec qui sont contre la loi 21. Ils bloquent pas les autoroutes, ils bloquent pas les ponts. Ils vont aller devant les tribunaux, puis ils vont demander aux tribunaux d'agir et de trancher. C'est comme ça qu'on fait dans un état de droit.
Oui, et on s'entend tous pour jouer selon les mêmes règles du jeu, et on s'entend tous pour croire en la primauté du droit, c'est-à-dire qu'on reconnaît le droit de la Chambre des communes, de notre Assemblée nationale, de voter des lois, et même quand on n'est pas d'accord, on les respecte quand même. Puis soit en pensant aussi, Richard, c'est important de dire que la Première Nation qui est ultimement concernée, qui est à l'origine de tout ce débat-là, ils sont, en fait, fortement en faveur du projet.
Ben oui.
Le conseil de bande est en faveur du projet de l'oléoduc. Et donc, il y a une infime minorité de cette nation autochtone-là qui est instrumentalisée par une certaine gauche radicale qui veut faire passer son agenda de décroissance, qui sont contre même le principe même du développement économique. Donc, ça va beaucoup plus loin que juste la défense de l'autodétermination d'une nation autochtone. C'est en fait un débat qui est profondément idéologique. Je respecte et on respecte le droit des gens d'être en désaccord. Vous pouvez même être un socialiste, un communiste, mais est-ce qu'on peut s'entendre au moins pour respecter nos lois? Et si vous voulez les faire changer, faites-vous élire, convainquez les Canadiens, les Québécois, et ensuite changez-les.
Exactement. Puis les conseils de bande, tu sais, c'est parce que d'un côté, tu as les conseils de bande qui sont démocratiquement élus et de l'autre, tu as les chefs héréditaires qui est comme un genre de monarchie. À un moment donné, le gouvernement a le droit de se dire, ben moi, l'Institut démocratique qui représente cette communauté-là, c'est le conseil de bande parce qu'il a été élu. Donc, c'est au conseil de bande que je vais, à qui je vais parler, avec qui je vais discuter.
Tout à fait. Puis je pense que c'est à ce moment-là qu'on doit mettre notre pied à terre puis dire ça suffit. On va vous parler, on va même négocier avec vous, on va trouver un terrain. Mais entre-temps, on va pas faire souffrir des millions de Canadiens et faire en sorte que des milliers d'emplois comme soient affectés ou perdus. Je note que même que pour le CN, il y a déjà des milliers d'emplois qui ont été suspendus. Donc, ça a des conséquences réelles dans la vie des gens. Et j'ai bien l'impression que les manifestants sous-estiment peut-être l'impact qu'ils ont sur la vie de gens ordinaires qui ne sont pas des gens de pouvoir ou qui n'ont pas d'argent nécessairement et qui ont peut-être même des petites familles qui dépendent de ces revenus-là.
Mais tout à fait. Je m'incline devant tes propos.
Je veux dire, t'es en train de baisser la tête comme
oui, c'est ça.
Devant le régime iranien.
Je te prends la merde, mes deux mains, je m'incline devant tes propos. Merci, Carl. Carl Vallée, ancien attaché de presse, premier ministre Stephen Harper. Bonne journée, salut.
Salut.
Richard Martineau.
Politiquement incorrect.
Cube Radio.
Alors, nous discutons avec Denise Bombardier de sa chronique d'aujourd'hui, page 2 du Journal de Montréal, l'autodestruction d'Éric Salvaire. Bonjour, Denise.
Bonjour, Richard.
J'en parlais tantôt, c'est un trip, si c'est vrai, parce que bon, il faut prendre ce témoignage-là là, au conditionnel, parce que bon, c'est une présumée victime, on verra ce que va décider le juge, mais bon, si ça s'est avéré, reste que ce sont des comportements de gens qui tripent sur le pouvoir, qui aiment ça, avoir un pouvoir sur une autre personne.
Ouais, mais c'est plus large et plus compliqué que ça, parce que la dimension sexuelle dans la personnalité d'Éric Salvaille était présente au quotidien, tout le temps. Et ça ne relève plus du droit, ça ne relève plus des rapports de force, ça relève de l'équilibre d'une personne, je dirais, quelque part. Mais enfin, je suis pas ici, moi je suis pas psychiatre, mais c'est sûr que, puisque c'est l'histoire de toute une vie, n'est-ce pas? Ceux qui ont suivi sa vie, ceux qui ont travaillé avec lui, ceux qui ont été ses amis, dont je suis, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que c'est très, très déstabilisant de voir ce qui se passe, comment ça se passe. Le procès, c'est une chose. La loi, c'est une chose. Les actes criminels, c'est une chose. Mais parce que des blagues salaces, par exemple, hein, des histoires de CUL, ben c'est oui. pas criminel, c'est pas un acte criminel, c'est un comportement inadéquat quand ça perturbe les autres. Mais là, on parle d'agression, on parle d'un procès pour agression. Ça, c'est une chose. Moi, ce que j'ai dit dans mon article, et c'est pour ça que ce garçon qui a rêvé depuis qu'il est tout petit, qui rêvait de cette carrière, qui appartient d'ailleurs à son époque, qui est l'époque des Facebook puis des réseaux sociaux, parce qu'il sait utiliser ça de façon magistrale. Il veut la reconnaissance. Il a du talent. Il a la capacité de choisir, de s'entourer des meilleurs professionnels. Parce qu'il a, c'est un talent, ça. Sa réussite était indiscutable. Hein, il a commencé à faire le clown pour faire applaudir le public dans des émissions. Et là, il était devenu le producteur.
Mais c'est ça qui est incroyable, Denise, ces hommes-là, là, oui. Par exemple, il y a des politiciens de haut niveau qui savent que leur comportement menace leur réputation, leur carrière, leur famille, et tout ça, mais qu'ils continuent quand même à jouer avec le feu. On dirait que c'est ça qu'ils veulent, à un moment donné. Ils veulent que ça soit révélé, qu'ils tombent en bas de leur trône, je sais pas.
Je ne sais pas, mais prenons un cas français, comme ça, on ne sera pas accusé de rentrer dans des procès, et puis dans des... Monsieur Griveaux, qui était le porte-parole officiel de l'Élysée, qui est un homme qui est marié, qui a des enfants, et qui, d'ailleurs, il y a 3 semaines, a accepté un reportage de Paris Match, avec sa femme et ses enfants, puis parler de l'amour de sa vie, sa femme et ses enfants. Mais au moment où il était devenu le candidat de la Macronie, de la tendance politique du président Macron, le candidat à la mairie de Paris, un candidat qui avait des chances de remporter et de battre Madame Hidalgo, qui a beaucoup d'opposition et qui représente, elle, une autre gauche, la gauche socialiste. Eh bien, au moment où il était, avant de devenir ce candidat, évidemment suggéré avec le président Macron, c'est un très proche du président Macron, il était son porte-parole à l'Élysée. Eh bien, il était son porte-parole à l'Élysée, il s'est photographié le pénis et il a envoyé ça sur des réseaux sociaux, je ne sais trop là, comment ça marche, à une jeune femme. Parce que c'est ça, et c'est ce vidéo-là qui est sorti et qui a été utilisé par un Russe, qui est un Russe réfugié, anti-Poutine, qui est actuellement détenu par les, en tout cas pour des interrogatoires, avec sa compagne, qui est une Française, détenue à Paris. Parce qu'on se dit, ce Russe-là, le rôle qu'il a joué, il a voulu déstabiliser le président de la République à travers ça. C'est clair. Alors comment cet homme-là peut-il faire... Et moi, j'ai entendu des débats en France cette semaine où il disait, mais c'est sa vie privée. La vie privée ne regarde que... C'est sa vie privée. On n'a pas à se mêler de sa vie privée. Pardon. À partir du moment où on a changé de paradigme, où on est dans des réseaux sociaux, où tout circule sur les réseaux avec la technologie, quiconque se prend des photos nues et dans des postures invraisemblables et envoie ça à des gens et que après d'autres ramassent ces documents-là, on ne peut plus dire que c'est la vie privée. La vie privée, c'est entre 4 murs, pas de caméra, pas de photo, rien.
Mais je reviens, c'est une pulsion qu'ils ne peuvent pas arrêter. Je reviens à Anthony Weiner. D'ailleurs, il faut le faire. Weiner, ça veut dire en anglais saucisse, en tout cas.
Anthony Weiner
était au Congrès. Il était au Congrès américain. En 2011, il se fait pincer parce qu'il envoie une photo de son pénis. Alors, il perd son poste. Il fait une traversée du désert. Il revient. Il se présente à la mairie de New York. Il réussit à avoir une deuxième chance, Denise. Il recommence la même affaire. Et se refaire pincer pour une autre photo. À un moment donné, le gars, il a pu faire oublier sa première gaffe, il a pu reconstruire une autre carrière, peut-être devenir maire de New York, et encore une fois, la bisoune en feu. C'est fou!
Mais l'ancien ministre conservateur, là, dont le nom m'échappe, là, qui a fait la même chose, qui a envoyé des images pornographiques de lui sur Internet. Mais au fond... quand on est entre nous et surtout quand on est entre femmes, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette pulsion qui fait que les gens se mettent en péril, se mettent en danger de perdre ce pourquoi ils ont voulu vivre, quoi.
Parce que
ça veut dire qu'on avait des ambitions.
Ben oui, puis ça prend du temps avant de construire une carrière. On le sait, ça prend des années pour construire une réputation. Ça prend 3 secondes pour la détruire. Alors, ce sont des gens qui ont travaillé fort, qui sont rendus enfin où il me semble que tu fais attention, tu es prudent.
Oui, mais remarquez que il faut dire les choses. Dans le cas d'Éric Salvaille, il faisait des émissions dans lesquelles il pouvait être extrêmement vulgaire. Il faisait des émissions supposément comiques, là. Et moi, ça m'est arrivé de l'appeler et de lui dire, mais comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu parler à un homme de 85 ans comme tu as parlé hier à la télé? Ben, il dit, c'est drôle. Il dit, t'as pas le sens de l'humour. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'avais pas le sens de l'humour. C'était obscène ce qu'il avait fait. Mais la chaîne le diffusait.
Mais c'est ça.
Donc,
c'est ça.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un contexte qui permet, qui permettait ça. Je veux dire, il faisait pas ça, c'était pas un rapport de un à un, d'une personne à une autre. Il y a personne qui pouvait le contrôler. Ou bien ça faisait l'affaire parce que ça faisait de la cote.
Mais c'est ça, il y a un contexte. Je pensais à vous ce dimanche. J'ai vu un extrait de Mariana Mazza qui dit un gros tabarnak à Guy Lafleur en pleine télévision d'État.
Oui. Et qui dit que j'aime son. Mais ça fait un an et demi, deux ans que je ne l'ai pas vu.
Non, mais ça manque quand même de.
Mais ça n'a pas de
sens. Ça manque de classe un peu, là.
Je le sais. Mais alors donc. C'est pas vrai que j'aime l'humour qu'elle fait à l'heure actuelle. C'est pas vrai. Elle peut le dire à la télé. Elle peut dire qu'elle est amie avec moi. Je veux dire, vous savez, c'est comme ça de mettre une fleur à la boutonnière, quoi. Mais c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec ça. Mais ça, je veux pas partir le débat parce que je veux pas que ça parte sur les réseaux sociaux.
Non, mais
il y a des gens qui veulent que ça parte et puis qu'on parle d'eux. Je ne veux pas ça.
Mais là, autour de gens comme Éric Salvaire, puis je vise pas seulement lui, là, des gens comme ça. Il y a des gens autour qui savent, qui connaissent ces comportements-là, qui ferment les yeux, qui détournent le regard. Mais donc ces gens-là se sentent, je peux faire ce que je veux. Personne me le reproche.
Oui, mais une chose est certaine. Si on veut contextualiser plus large ce qui se passe, c'est que depuis MeToo, eh bien, des gens qui ont des comportements limites ou des comportements qui dépassent les bornes, et je ne parle même pas de gestes criminels, eh bien, ces gens-là, et qui sont des personnalités connues, qui sont dans des postes de pouvoir, ben, ils ne peuvent être sûrs de rien parce que tout finit par se dire.
Oui. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec le mouvement MeToo, on parle des femmes qui sont victimes d'harcèlement, mais il y a des hommes aussi qui sont victimes d'harcèlement par des gays, entre autres. Ça, on en parle très peu aussi. Là.
Oui, mais parce que les hommes, ils n'osent pas le dire. Parce que des hommes n'osent pas avouer qu'ils ont été victimes d'un autre homme. Il y a encore l'image de l'homme qui n'est pas comme une femme, autrement dit, qui n'est pas fragile comme une femme. Et je pense qu'il y a des hommes qui ont été... Moi, je suis certain, on est certain qu'il y a des hommes dans le monde homosexuel. Il y a des hommes qui ont été violés par des homosexuels. Mais c'est vrai qu'ils ne viennent pas sur la place publique. Pour la très grande majorité d'entre eux, ils viendront jamais sur la place publique pour le dire.
Il y a beaucoup d'hommes ambitieux qui ont réussi et qui ont, une libido particulièrement énergique. Là. On dirait que ça fait partie de leur ambition. Hein. Pensons à DSK, Dominique Strauss-Kahn. Il y a souvent des hommes, c'est un peu... Leur libido a participé aussi à ce que... Ça leur donnait une énergie pour grimper les marches et se construire une carrière.
Mais il y avait des comportements avec les prostituées qui ont été mises dans des procès, qui ont été exposées, des comportements, mais qui étaient dégoûtants. Allons plus loin. Parlons de John F. Kennedy. F. Kennedy disait que s'il ne couchait pas chaque jour avec des femmes, il avait la migraine. Parce que vous savez qu'il avait d'énormes migraines parce qu'il avait une blessure au dos.
Oui.
Et il disait que c'était la seule chose qui lui enlevait la migraine. Donc, il couchait chaque jour. Et ce n'était pas avec son épouse.
Même chose avec Bill Clinton, j'imagine aussi.
Il savait ça.
Bill Clinton?
Mais Bill Clinton a quand même passé à travers et il est resté président. Alors que dans son propre bureau, dans le bureau ovale, qui est le symbole le plus sacré du pouvoir américain, se faisait faire des on sait quoi par une jeune stagiaire.
Ben oui.
Mais qu'est-ce que c'est que cette sexualité-là? Est-ce que vous avez remarqué que dans tous ces cas, et maintenant, il y en a beaucoup qui sortent, moi, ce qui me frappe, avant, quand on avait des problèmes, quand on avait sur des thèmes comme ça, moi, je me souviens, dans le passé, on faisait venir des psychiatres. Mais les psychiatres, ils veulent plus venir à la télévision pour parler de ça. Mmh. Les psychiatres d'aujourd'hui, ils veulent pas parler. Ils veulent pas prendre position. Ils veulent pas nous expliquer la psychologie profonde. Je les comprends en partie, c'est-à-dire qu'ils connaissent pas le cas précis. Mais ce serait bon d'avoir des gens qui ont fait 50 spécialisations en psychiatrie, pas seulement dans le monde des médicaments pour contrôler les perturbations mentales, mais aussi pour connaître la psychologie profonde, qu'ils sont pas capables de venir nous éclairer un peu sur ces questions-là.
Mais qui sait, peut-être on va en entendre au cours de ce procès-là, mais j'invite les gens à lire votre texte en page 2, l'autodestruction d'Éric Salvaille. Merci beaucoup, Denise. Bonne journée.
Merci.
Denise Bombardier.
Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine.
Richard Martineau.
Politiquement incorrect.
Alors, je lisais un texte sur la pandémie là, du coronavirus dans le Bloomberg Business Week. Il y a plusieurs spécialistes qui étaient interviewés et qui disent que c'est un avant-goût de ce qui nous attend. On risque d'avoir de plus en plus là, de genre de pandémie comme ça, d'épidémie à répétition, parce que il y a beaucoup de virus, ils sont de plus en plus puissants et de plus en plus résistants aux antibiotiques. Nous allons parler avec M. Mark Hamilton, microbiologiste et président du groupe Eurofin Environnement. Bonjour, M. Hamilton.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il va en avoir de plus en plus des pandémies et qui va se propager de plus en plus rapidement?
Ben, je dirais des pandémies, c'est pas d'hier. Hein. On en a depuis le monde est monde. Il y a toujours eu des pandémies, que ce soit la peste, que ce soit la grippe aviaire, que ce soit la grippe espagnole. C'est sûr qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est inquiétant? C'est qu'aujourd'hui, on a une barrière médicale. Donc, vous parliez tantôt d'antibiotiques. Donc, les virus, aujourd'hui, pour pouvoir contrer la barrière médicale qu'on leur donne comme lutte, ils doivent être de plus en plus forts. Fait qu'aujourd'hui, on se rend compte avec beaucoup plus de super bactéries, de super virus, qui fait qu'au-delà de la médecine qu'on la connaît aujourd'hui, les virus se doivent d'être beaucoup plus forts. Et c'est ce qui inquiète, c'est le pouvoir de mutation des virus qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait jamais à quoi s'attendre.
Et là, je demandais hier sur ma page Facebook, je fais ça de temps en temps dans des entrevues, je demande aux auditeurs de me suggérer des questions, je prends des questions du public, et là, il y a un auditeur, Roch Gagnon, qui dit, selon vous, est-ce qu'il y a un lien entre ces virus-là, les changements climatiques, la déforestation, etc.?
Ben, écoutez, ça, c'est une bonne question. On reste, on n'a pas de preuve absolue, mais il reste une chose, c'est que l'être humain, plus on est proche, autrement dit, vers, si on veut, de l'animal. Tu sais, on se rend compte que les super virus, il y a toujours un rapprochement avec les animaux et la salubrité, la sanitation entourant ça. Si on prend l'historique du coronavirus, on sait que ça a débuté par un animal qui s'est transmis à l'être humain. Donc, il y a eu une mutation qui s'est faite vers l'être humain. Et là, présentement, qu'est-ce qu'on a peur? C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens me posent des questions et disent, pourquoi qu'aujourd'hui, les gens capotent sur le coronavirus plus que la grippe? Il y a 4 à 5 000 personnes qui meurent de la grippe, puis le coronavirus, il n'y en a même pas 2 000 qui sont décédés aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, là, ce qu'on a peur, parce que c'est un nouveau virus, il s'est muté une fois. Et lorsque les scientifiques de ce monde se disent, qu'est-ce qui va arriver à ce virus-là s'il se mute une deuxième fois d'humain à un humain et qui va devenir un super virus, puis on ne sait pas quels seront les effets secondaires. Mais ça, c'est une des questions. Mais quand on parle de qu'est-ce qui touche aux déforestations, qui touche à la nouvelle pollution, c'est évident que ça amène des nouveaux contaminants dans l'atmosphère, ça amène des nouvelles réactions de notre système immunitaire par rapport à ces nouveaux contaminants-là, mais c'est sûr qu'il peut y avoir une corrélation.
Et c'est comme, moi, j'ai lu là, que 70% des virus sont d'origine animale. L'Ebola, ça existait depuis longtemps, c'était dans le fond des forêts, on n'avait pas contact avec l'Ebola, mais avec la déforestation, comme vous le dites, soudainement, on entre en contact avec ces virus-là, et effectivement, la déforestation peut jouer un rôle là-dedans. Là.
Bien, c'est sûr, hein, sans le savoir, hein, la forêt contribue à notre système immunitaire, de sorte que c'est un poumon, elle peut retenir des virus, elle peut revenir des maladies, elle va dépolluer l'air. Mais au-delà de ça, si je fais juste un parallèle sur les nouveaux contaminants, au-delà des virus, on n'a jamais eu autant de personnes allergiques aujourd'hui qu'il y a 25 ans passés.
Ben oui.
Et ça, qu'est-ce souvent qu'ils nous demandent? Ben pourquoi aujourd'hui il y a autant des gens qui sont allergiques aux peanuts, qui sont allergiques à toutes sortes d'affaires? Écoutez, il y a une collection d'épipènes quand on va dans les garderies.
Ben oui.
C'est incroyable. Il y a le mur des célébrités. Tu sais le nom des étudiants en regardant la quantité d'épipènes qu'ils ont sur le tableau. C'est incroyable. Moi, dans mon temps, quand je jouais au hockey,
il n'y avait pas ça.
Quelqu'un qui était asthmatique, il était vraiment de naissance. Il n'est pas devenu. Et là, on se posait la question, qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui que de plus en plus de gens qui deviennent allergiques, puis autrefois, ils ne l'avaient pas? Bien, on parle de pollution atmosphérique, on parle d'additifs alimentaires qui sont rajoutés, qui fait que c'est tous des excitants à bon niveau, qui fait que notre système immunitaire réagit, excusez-moi, à des innocenteries, qui fait que le moindre petit contaminant, on va avoir une réaction immunitaire, une fausse réaction immunitaire, et c'est ça qui fait qu'on rentre dans une industrialisation, que les gens deviennent de plus en plus allergiques. Je vais te donner un cas de figure. Moi, je suis ami avec un couple d'Haïtiens. Ils sont arrivés au Québec dans les années 80. Quand ils sont arrivés aux années 80, aucune allergie. Parce que ces gens-là vivaient en Haïti, il n'y avait pas d'additifs alimentaires, peu de pollution. Ils arrivent ici, 2 ans après, je les rencontre, mais voyons, qu'est-ce que tu fais avec une épipène? Qu'est-ce que tu fais avec une pompe? Ben, il dit, je suis rendu québécois. Mais comment ça, rendu québécois? Ben, je mange québécois, je respire l'air. Et on voit que les allergies, c'est pas vrai qu'on est nécessairement toujours avec ça. C'est juste la génétique influence. Mais je pense que c'est dans le milieu dans lequel on est, qu'on respire, qu'on mange, influence beaucoup notre système immunitaire.
C'est très, très intéressant. Diane Fortier, une auditrice, qui dit, est-ce que nos systèmes de santé, les systèmes de santé des pays développés, est-ce qu'ils peuvent faire face à une grosse pandémie? Déjà qu'on n'arrive pas à faire face à la simple grippe hivernale.
Bien, c'est évident qu'on a toujours peur d'avoir une bactérie qui va avoir le dessus de notre médecine. Hein. On sait qu'il y a 2-3 ans, on a entendu qu'il y avait une pneumonie n'était qu'à un cheveu près, à une antibiotique près, de créer une pandémie d'une nouvelle bactérie. Ouais, il n'y avait aucun antibiotique. On est toujours à risque parce que plus on travaille avec... vous savez, les bactéries, tout comme les virus, eux, ils ont un magnifique système que nous, on n'a pas, c'est qu'ils ont le pouvoir de se muter dans le milieu où est-ce qu'ils sont. Demain matin, là, il y aurait la fin du monde, tout ce qui resterait sur la planète, c'est probablement des bactéries puis des virus, parce qu'eux peuvent s'adapter dans le milieu où est-ce qu'ils sont. Fait que eux autres, la bactérie, quand on est toujours en contact avec de quoi qui lui dit « meurs, meurs, meurs », il y a toujours une plus savante que les autres qui va se dire « ben moi, je vais être capable de vivre au travers et d'adapter mon ADN pour que si je suis en contact avec un désinfectant, que je sois en contact avec, un antibiotique, je vais passer au travers. » Et c'est ce qui nous fait peur. C'est que les bactéries ont une capacité d'adaptation que l'être humain n'aura jamais.
Il va falloir aussi, dans le texte que je disais dans le Bloomberg Business Week, il y a des scientifiques qui disent il va falloir avoir des règles internationales, mondiales, les mêmes règles pour tout le monde, ne serait-ce que pour l'hygiène, la manutention des aliments. Ici, on a des règles très strictes qu'on doit respecter. C'est pas le cas dans certains autres pays où il y a des marchés à ciel ouvert avec de la viande sur des étals puis tout ça, là, qui sont vraiment des incubateurs de virus. Est-ce qu'il va falloir justement... adopter comme... vous savez, c'est toute l'humanité qui peut être victime d'une pandémie, donc adopter des règles internationales.
Moi, je dirais bonne chance. moi, je pense que c'est utopique de penser que tout le monde va être sur la même longueur d'onde en termes de salubrité. Vous savez, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Prenez juste un exemple. Je ne dis pas que ce n'est pas correct d'être très, très salubre, mais notre système immunitaire s'habitue des automilieux très, très, très salubre, qui fait que lorsqu'ils sont dans un milieu moindrement insalubre, ils ont une sorte de maladie. Prenez un exemple. On va juste dans le sud. Tu t'en vas, exemple, au Mexique, on boit une goutte d'eau là-bas, c'est la tourista, écoute, on va pas bien, on pogne l'hépatite, il faut se vacciner pour aller dans un endroit. Les Mexicains, eux, là-bas, ils n'ont rien de ça. Ils vivent très bien. Leur système immunitaire est adapté à boire de l'eau contaminée, à manger des aliments qui sont potentiellement contaminés. Donc, c'est sûr que entre nous, en Amérique du Nord, qui est excessivement propre, versus un pays plus en développement, où est-ce qu'il est excessivement pas propre par rapport à nous autres, on ne pourra jamais faire une ligne égale. C'est juste que nous, je pense qu'on est à l'extrêmement propre, ce qui n'est pas négatif en soi que tel, mais plus on est propre, plus on devient dépendant de la propreté. Et ceux qui sont excessivement pas propres, mais ont un système immunitaire que nous, on n'a pas présentement. Donc,
c'est vrai. Et M. Hamilton, quand on était petit, on mangeait de la boîte, là, quand on allait dans le parc, là, on mangeait du sable, puis il n'y avait pas l'escouade de Purell qui arrivait pour nous laver la langue, puis tout ça. Là, on était. Aujourd'hui, on vit dans un monde aseptisé.
Mais regardez un exemple. Quand j'étais jeune, moi, là, j'avais mal aux oreilles, j'avais une otite, je faisais mon temps. Je me rappelle, ma grand-mère me donnait toutes sortes de... En tout cas, je sais pas si c'était... ça fonctionnait, mais on faisait notre temps. On avait mal aux oreilles, elle mettait du lait chaud dans les oreilles, elle me frottait avec du Vix. J'avais mal, je faisais mon temps, puis ça passait. Aujourd'hui, nos enfants ont moindrement mal aux oreilles à la gorge. Chez l'hôpital, antibiotiques 3 jours, on veut pas que nos enfants aient mal. Donc, on voit un peu que notre système immunitaire aura jamais la capacité de s'adapter dans l'environnement où est-ce qu'il vit. On est toujours sur une béquille qui fait qu'on veut pas souffrir.
Et en terminant, vous parliez tantôt de fin du monde. Je ne veux pas faire un discours apocalyptique, mais c'est drôle. Quand j'étais jeune, puis on imaginait la fin du monde, on pensait que c'était des gros monstres qui nous attaqueraient, ou alors des gros volcans, puis des météorites, des grosses affaires. Et finalement, la fin du monde, la fin de l'humanité, pourrait être causée par des micro-organismes.
Effectivement. Moi, j'avais un professeur à l'université, on l'appelait le dieu bactérie. Lui, il disait que le bon Dieu passait par des bactéries, que les bactéries avaient le pouvoir de nous détruire. On disait, ben voyons, qu'est-ce qu'il dit là, ça n'a pas de sens, tu sais, parce qu'on disait c'est inoffensif. Et effectivement, aujourd'hui, le terrorisme, j'ai beaucoup plus d'un terrorisme, peur d'un terrorisme biologique que d'un terrorisme d'une bombe, parce qu'avec la transmission, on le voit aujourd'hui, hein, avec la transmission facile interhumain, c'est très facile de partir une pandémie, et si le virus est moindrement contagieux ou mortel, ben ça peut décimer plus facilement, plus rapidement qu'une bombe atomique de la population.
Ben merci, c'est super intéressant. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que parce qu'il faut voir à long terme. Là, il y a une pandémie, puis on va probablement la contenir puis régler, mais il va falloir à un moment donné avoir une politique à long terme, parce qu'il va en avoir d'autres.
Mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais comment elle va arriver, de où elle va arriver, puis comment la guérir. On ne sait pas, parce que là, on travaille avec la science. Puis qu'est-ce que la science? C'est carrément différent des mathématiques. Mathématiques, 1 plus 1 va toujours égaler 2. Mais tout le monde est scientifique, 1 plus 1 va dire, bon, on ne sait pas ce qui peut arriver. La science, c'est humain, c'est vivant, et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, on a toujours une belle boîte de Pandore, et on ne sait jamais ce qui peut arriver, ce qui nous guette devant nous. C'est l'histoire humaine.
Est super intéressant de discuter avec vous, M. Hamilton. Je continuerai ça encore pendant une heure, là. Marc Hamilton, microbiologiste, président du groupe Eurofin Environex. Merci beaucoup. On se reparlera.
Merci.
Merci. Jonathan, tu parles des virus, toi.
Mais à la place, je suis pogné avec Jonathan. Je continuerai ça pendant une heure avec vous, mais là, je suis pogné avec Trudeau qui attend sur l'autre ligne. C'est pas grave, parce que Fred puis moi, on faisait des concours de boombox. Écoute, des fois, là, on préfère un show juste avec ce que Fred Rioux puis moi, on fait hors d'onde.
Oui. Tu parles des bébites, des virus? T'es-tu genre à porter un masque?
Non. Non, je suis devenu très Purel avec le temps. Là.
Oui.
Je pense que c'est dans l'air du temps. La petite bouteille de Purel qui est dans l'auto tout le temps.
Non, mais toi, t'es en politique, là, j'imagine. Les politiciens qui serrent des mains, puis des mains, puis des mains, ils doivent tout le temps mettre du Purel. Ça n'a pas de bon sens.
Oui. Oui, non, oui. Puis même à ça, ils finissent par pogner des affaires. Mais il ne faut pas que ça devienne maladif. T'sais, est-ce que ça aide d'avoir une bonne hygiène? Une bonne hygiène, je pense que oui. Mais faut pas virer fou non plus, là.
Tu vas revenir sur, j'imagine, Éric Salvaille?
Oui, ben oui, on va parler à la juge à la retraite, Nicole Gibeault, qui est sur place au Palais de justice. Là, on me disait que ça a commencé par un ajournement des travaux. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai hâte de comprendre. Moi, je veux revenir sur le rôle des avocats de la défense. Surtout en parlant à une ancienne juge, là. Tu sais, comment... est-ce qu'à un moment donné, il y a comme des bornes à ne pas dépasser, tu sais, dans la tentative de remettre en question la crédibilité d'une victime potentielle, d'un témoin? On dit que le maître mascotte, là, était même un petit peu, là, quoi, le kaki avec M. Duguay hier. T'sais, est-ce qu'il y a comme des limites à ne pas franchir pour pas que ça devienne un couteau à double tranchant, tu sais, ça se revire contre toi, là, tu sais, de victimiser davantage la présumée victime,
ben si
tu
veux, oui.
Là? Donc, on va parler de ça avec Mme Gibault. Puis également, je suis bien content parce qu'il ne donne pas tant d'entrevues que ça. On va s'entretenir avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, pour parler de Bombardier. Oui. Je suis un peu tanné du narratif sur Bombardier. Tu sais, tu me connais, on dirait que quand tout le monde va dans un sens, on dirait que je vais en encore plus dans l'autre sens.
C'est quoi le narratif? C'est une bonne nouvelle? C'est une excellente nouvelle?
Non, en fait, le narratif à l'effet que Bombardier est mort. Là, Bombardier ne serait plus qu'une coquille vide, là, ne serait plus que l'ombre d'elle-même. T'sais, j'ai fait mes recherches, là, l'aviation d'affaires, là, c'est 10 000 emplois au Québec, c'est 18 000 emplois dans le monde. L'an dernier, c'est un chiffre d'affaires de 7,8 milliards avec des marges de profit de 7%, ce qui est énorme. Bombardier, juste avec l'aviation d'affaires, est l'employeur industriel numéro 1 au Québec et dans le top 5 au Canada derrière des concessionnaires automobiles, là, des producteurs automobiles. Donc, je comprends que c'est plus ce que c'était. Je comprends que, évidemment, la rémunération des patrons, on peut tout se rappeler de ça puis broyer du noir, mais Bombardier, c'est pas une binerie non plus aujourd'hui, là. Si Bombardier, c'est fini, faisons d'autres choses. On aime ça dire qu'on est des bons entrepreneurs au Québec. Ben parfait, on se crache des mains et on part d'autres choses. Let's go, gang.
OK, fait que c'est pas une petite grenouille, là, encore, là.
Ben non. Est-ce qu'elle a vu trop gros? Est-ce qu'elle a voulu avaler le bœuf, comme tu l'as si bien mentionné avec Paul Larocque-Alicienne un peu plus tôt cette semaine? Oui. Elle a vu trop gros. Mais il reste que l'aventure, là, et je sais que, je sais pas si le ministre va m'en parler, mais je sais qu'il a tenu ce discours-là. Lorsqu'on fait l'opération comptable, il y a le 600 millions, là, qu'on sait pas ce qui va devenir dans les prochaines années. Là, il y a un gamble avec Airbus. Mais le reste des investissements qui ont été faits ont été très rentables. D'un, il y a des emplois. Les emplois sont là, des emplois bien rémunérés. Puis regarde, prends juste le 1,5 milliard que la Caisse avait mis dans Bombardier Transport. Hier, ils ont fait 800 millions de profits avec la vente. 800 millions en 4 ans. T'sais, ils ont revendu 2,3 milliards, ce qui avait 1,5 milliard. Là, ils réinvestissent dans Alstom pour être actionnaire. Mais c'est 800 millions qu'ils ont fait dans le business. Quand même pas pire. Là,
oui, mais vous avez
arrêtons d'être trop négatif aussi, le money.
Ça va être très intéressant avec M. Fitzgibbon de t'entendre parler là-dessus.
Qui veut se faire aussi grosse que le bœuf.
Ça, c'est Fred. Merci, on t'écoute avec Maude. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Merci justement à Fred Rioux à la réalisation console. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.